Es un gusto muy especial participar de esta reunión. Bonjour, c'est un plaisir très spécial faire partie de cette réunion, donde evidentemente vamos a traducir constantemente ou on va traduire tout le temps. Et ça, eso nos liga à la causa de nuestra reunión, c'est déjà nos liaisons avec la cause de notre réunion, c'est le film de Richard Letts, Adieu Lacan, le film de Richard Letts, Adieu Lacan. Ya que en la película la cuestión del pasaje de una lengua a la otra, de una palabra a otra y de fragmentos de palabras es una cuestión fundamental en la película. Étant donné que le passage d'une langue à une autre, entre les mots, même entre des fragments des mots, c'est une question fondamentale dans le film. Et précisément, à raíz de cette question de la traduction, précisément, à cause de cette question de la traduction, avant de lire un breve commentaire qu'écrivit à cause de la película, más que sobre la película. Donc, avant de lire un bref commentaire que j'ai écrit plutôt à cause du film que sur le film. Entonces, antes de leerlo, me gustaría hacer un cierto comentario sobre la figura del traductor. Je voudrais faire un certain commentaire sur la figure du traducteur. Que es una figura que es muy mal vista, que es tratada como un estafador, como alguien que traiciona un texto original. La figure du traducteur, c'est quelqu'un très mal vu, il est traité comme un escroc, comme quelqu'un qui trahit le texte original. Et bon, esta conviction sobre la estafa de todo traductor, cette conviction sur l'escroc, qui de tous les traducteurs, dépend de un fantasme, relève d'un fantasme, et son fantasme latino. Traduttore, traditore. Il traditore, che sì, suppone che hai una traición a un texto original, qui suppose qu'il y a une traición a un texto original. Entonces, es esta idea del texto original que, ¿sí? Bueno, Freud nos enseña a desbaratar, dado que en lo simbólico, en el origen, hay un agujero. Entonces, ce texte original, Freud nous enseigne à le défaire parce que à l'origine, ce qu'il y a, c'est un trou, c'est le symbolique. Borges considérava que, o calificaba a esa idea del texto original como superstición. Hacía una inversión en la cual, irónicamente, decía que él solía encontrar textos originales que traicionaban la traducción. Donc, Borges, il il nommait, n'est-ce pas, il prenait cette texte original comme une superstition. Donc, dans sa son ironie géniale, il disait, donc il trouvait souvent des textes originaux qui trahissent la traduction. Et ainsi, lo que Freud nombra como represión primaria, o lo que Lacan nombra como la separación entre el significante y el significado, es decir, el agujero en lo cual lo simbólico consiste, entonces, dada esa estructura, lo que se considera como texto original es también una traducción. Es decir, de modo que la traducción es el modo regular de funcionar en lo simbólico. Je suis en train de dire que la traducción c'est la manière régulière de fonctionner dans le symbolique. Pour signifier, il faut traduire. Hein? Parce que à l'origine, il y a ce que Freud a nommé la répression primaire, ou ce que Lacan a nommé la séparation entre les signifiants et les signifiés. Ça veut dire le symbolique consiste en trop. De modo que, el hecho de despreciar al traductor se basa en desconocer que en lo simbólico se funciona regularmente por medio de la traducción. ¿Cierto? Donc, je disais que le mépris par les traducteurs relève de la croyance qu'il y a un texte original et relève de la méconnaissance de cette manière régulière de fonctionner dans le symbolique par le moyen de la traduction. C'est comme ça qu'on symbolise, en traduisant. Entonces, así simbolizamos, traduciendo, no hay otra manera. Entonces, esto me parece pertinente comentarlo porque es un desprecio tan generalizado que perfectamente podríamos incluir en la lista de los objetos de segregación, en una lista, por ejemplo, que se puede armar, ¿cierto? De los objetos segregados, la mujer, el psicoanalista, el judío, el inmigrante, también se puede incorporar el traductor. Se dice que dans une liste des objets méprisés y ségrégés, ¿no? on peut dresser la liste en nommant, par exemple, la femme comme objet maîtrisé, donc la femme, le psychanalyste, le juif, l'immigrant, et aussi la figure du traducteur, aussi le traducteur. Donc, entonces, y por eso que saludo a mis compañeros de traducción de esta mañana, Elena Lacombe y David Jacobson, y por supuesto, nos vamos a ocupar de la traducción de la mejor manera, lo haremos lo mejor posible. Entonces, bien, donc c'est pour ça que je salue mes collègues de traduction ce matin, Elena Lacombe et David Jacobson. On va faire le mieux qu'on peut au moment de traduire. Muy bien. Entonces, les voy a leer, decía, un muy breve escrito, no sobre la película, sino a causa de la película. En mi caso va a ser así. Entonces, maintenant je veux lire un breve commentaire, pas sur le film, mais à cause du film. Dans mon cas, c'est comme ça. Bon, d'abord je voulais dire en espagnol et après en français. Alors il y en a primero en espagnol y después en francés. Y se titula A través del muro. Hay una cuestión en especial que me interesa comentar a partir de esta luminosa película. La cuestión de la soledad del que habla. Ya se anuncia en el título, Adiós Lacan. Se ve claramente que el lazo que se crea entre dos que hablan no es una fusión, sino la conexión a través de un muro, como en la historia ovidiana de Pídamo y Tisbe, cuyo amor incluía un muro separador. En la palabra se confronta la soledad del que habla con la soledad del que escucha en ese lazo vital entre uno y otro. El discurso consiste en dirigirse a otro. Y hablar es la situación plena del lazo social, no en términos de unión, sino de articulación a través de una diferencia radical. En el discurso analítico, hablar desde el diván sin dirigirse a la imagen ni a los signos visibles del otro, es una puesta en escena de la barrera que los separa. Sincerar el hecho que cuando dos hablan, no son agua de un mismo río. Son, en todo caso, dos orillas. El analista ofrece a quien habla ubicarse en el diván, pero es el analizante quien conquista esa posición, y esto lo vemos brillar en Adiós Lacan. Ahora bien, la soledad de que habla no es completa, no está completamente solo, ya que se apoya en un objeto que no es propiedad narcisística, sino algo que sin pertenecer a los dominios del yo se liga al sujeto de manera esencial. Adiós Lacan es la frase de una separación, no para quedarse completamente solo, sino para obtener el apoyo del objeto que causa el deseo. Es un hecho que tomar la palabra es salir del grupo, es hacer aparecer una marca personal que desarma la pureza del grupo. De ahí el pudor que sentimos vacilar cuando hablamos. Algo se da a ver, aún confusamente, se entrevé un matiz que pertenece a uno y no a todos. Por eso Freud le dio al hablante estatuto de héroe. La palabra es central en la creación de ficciones, en una ética de poeta, algo que solo se hace de manera singular. Es en tanto poeta como se sale de la masa. El analizante practica la soledad del héroe. A diferencia del que escribe, en el hablar hay una soledad en presencia del otro. En cambio, la escritura es la separación del objeto. Las letras se acomodan en un espacio separado, ya que no es un objeto ofrecido al intercambio con el gran otro, sino un objeto que sustituye al gran otro, sustituye al hecho del intercambio. De modo que escribir es para el sujeto la experiencia de su ciudad esencial. Y la función del escribir no es la de prestarse como coartada al reglamento ni rodear de dignidad la reticencia al discurso, sino se escribe justamente para hablar mejor. Hay un deseo de soledad para escribir, que de manera sintomática enmarca también el insomnio. Escribir mientras el otro cierra los ojos y la demanda descansa. El analizante habla y paga. Allí el dinero es del registro de lo escrito, restos separados de lo que dijo. Dos acciones que articulan la palabra y lo escrito. la creación del sentido y lo que el sentido no puede atrapar, el agujero de las tareas. El deseo, que es asunto y eje del análisis, articula los dos registros. Lacan afirmaba que la psicoterapia conduce a lo peor, por ignorar el deseo. Su bienestar es un canto de sirena al servicio del placer fácil, indiferente a la causa singular. Mantenerse de espaldas a la verdad es el confort de avestruz que ofrece la psicoterapia y que conduce a lo peor, al hastío de la vida a falta de un deseo a construir. En la película hay el acontecimiento de un objeto poderoso que se pierde y que deja a la analizante en situación de asumir su posición respecto de lo perdido y de lo que necesita salir a conquistar. Queda claro, la huida neurótica que se aferra a la misericordia de la psicología no es lo único que hay para hacer. Hay el psicoanálisis, la elaboración sigilosa de la verdad, para que el analizante corrija lo que sea necesario y tome decisiones. ¿Por qué hablar es exiliarse de una totalidad del grupo? Porque para decir es necesario que algo permanezca no dicho. Si no, las palabras no tienen poder de evocación, no significan nada. Lo no dicho corta al hablante de lo que se comparte, lo vuelve otro de lo que dice, el muro del lenguaje se levanta y lo que queda es leer entre las líneas. Es ese espacio entre las líneas el que resuena en la película y nos conmueve. Por eso, desde la Asociación Psicoanalítica Topología en Extensión y en mi nombre, saludamos la aparición de este bello producto de cine, saludamos a su realizador Richard Led. Muchas gracias. Thank you so much. Lo voy a leer ahora en francés. Je le lis en français. À travers le mur. Il y a une question en particulier que je voudrais commenter à partir de ce film lumineux. La question de la solitude de celui qui parle. Cette question est déjà annoncée dans son titre, a dit Lacan. Il est clair que le lien qui se crée entre deux sujets qui parlent n'est pas une fusion, mais la connexion à travers un mur, comme dans l'histoire ovidienne de Pan et Thisbé, dont l'amour incluait un mur de séparation. Dans la parole, on confronte la solitude de celui qui parle à la solitude de celui qui écoute, dans ce lien vital qui existe entre les deux. Le discours consiste à s'adresser à un autre. Parler est la situation pleine du lien social, non en termes d'union, mais d'articulation à travers une différence radicale. Dans le discours analytique, parler du vivant sans viser l'image ou le signe visible de l'autre, c'est une mise en scène de la barrière qui les sépare. Quand deux parlent, ils ne sont pas l'eau d'une même rivière. Ils sont en tout cas deux rivages. L'analyste offre à celui qui parle de se placer sur le vivant, mais c'est l'analysant qui conquiert cette position, et cela, nous le voyons briller dans Adieu Laurent. Or, la solitude de celui qui parle n'est pas complète. Le parle-être n'est pas complètement seul, car il repose sur un objet qui n'est pas une propriété narcissique mais quelque chose qui, sans appartenir au domaine du moi, lie le sujet de manière essentielle. Adieu Lacan, c'est la phrase d'une séparation, non pas pour rester complètement seul, mais pour obtenir le soutien de l'objet qui cause le désir. C'est en fait, prendre la parole, c'est sortir du groupe. C'est faire apparaître une marque personnelle qui désarme la pureté du groupe, d'où la pudeur que nous sentons vaciller quand nous parlons. Quelque chose se révèle même confusément, une nuance qui appartient à un et non à tous. C'est pourquoi Freud a donné au parlêtre le statut de héros. Prendre la parole, c'est entrer dans la création des fictions, dans une éthique de poète. Quelque chose qui ne se fait que de manière singulière, c'est en tant que poète que nous sortons de la masse. L'analysant pratique la solitude du héros. Contrairement à celui qui écrit, dans la parole, il y a une solitude en présence de l'autre. En revanche, l'écriture est la séparation de l'objet. Les lettres sont placées dans un espace séparé, car ce n'est pas un objet offert à l'échange avec l'autre, mais un objet qui remplace l'autre, remplace le fait de l'échange. Écrire est donc pour le sujet l'expérience de sa solitude essentielle. Et la fonction de l'écriture n'est pas de se prêter comme alibi de l'isolement ni entouré de dignité la réticence au discours. Sinon, on écrit justement pour mieux parler. Il existe un désir de solitude pour écrire, qui de manière symptomatique encadre si bien l'insomnie. Écrire pendant que l'autre ferme les yeux et la demande se pose. L'analysant parle épais. L'argent appartient au registre de l'écrit. Ce sont des restes séparés de ce qu'il a dit. Deux actions qui articulent la parole et l'écrit. La création de sens et ce que le sens ne peut pas attraper, les trous des Danaïdes. Le désir, qui est l'affaire et l'axe de l'analyse, articule les deux registres. Lacan a affirmé que la psychothérapie conduit au pire parce qu'elle ignore le désir. Son bien-être est un chant de sirène au service du plaisir facile, indifférent à la cause singulière. Tourner le dos à la vérité et le confort de l'autruche offert par la psychothérapie et qui conduit au pire, à l'ennui de la vie en l'absence du désir. Dans le film, il y a l'événement d'un objet puissant qui se perd et qui contraint l'analysant à assumer une position par rapport à ce qu'il a perdu et ce qu'il lui faut conquérir. Devient clair. La fuite névrotique qui s'approche à la miséricorde de la psychologie n'est pas la seule chose à faire. Il y a la psychanalyse, l'élaboration fictive de la vérité, pour que l'analysant corrige ce qui est nécessaire et prenne des décisions. Pourquoi parler, c'est s'exiler d'une totalité du groupe. Parce que, pour dire, il faut que quelque chose reste non dit. Non dit. Sinon, les mots n'ont pas de pouvoir d'évocation. Ils ne signifient rien. ceux qui n'est pas dit coupe le locuteur de ce qui est partagé. Il devient un autre de ce qu'il dit. Le mur du langage se lève et il ne reste plus qu'à lire entre les lignes. C'est cet espace entre les lignes qui résonne dans le fil et cela nous touche. C'est pourquoi, depuis l'association psychanalytique Topologie en expansion et en mon nom, nous saluons l'apparition de ce beau produit cinéma, nous saluons le réalisateur Rich Parlet. Merci beaucoup. Thank you.
Gracias. Bueno, ahora les vamos a dar la palabra.